Juste ce baptême que nous allons vivre fait suite et s'enracine dans ce baptême de Jésus. Et ce baptême de Jésus, pour nous aujourd'hui, ce n'est pas une histoire ancienne, puisque la voix de Dieu qu'on a entendue, que Jésus a entendue, cette voix qui dit « Tu es mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection », c'est cette même voix qui retentit pour chacun de nous. Et cette voix du Père qui appelle, un Père qui est un Dieu de relation. Et ce qui est merveilleux dans ce que nous fêtons comme baptême, c'est que nous célébrons la relation possible avec Dieu. Si on m'avait dit ça avant l'âge de 20 ans, j'aurais eu du mal à le croire. Un Dieu qui aime être en relation. Et le baptême est cette réponse, Priscille, qui va venir tout à l'heure, c'est une réponse simplement à l'amour de Dieu. C'est pas faire un truc en plus pour faire plaisir à Dieu. C'est une réponse à son amour qui est déjà là. C'est pas des lois pour qu'on atteigne une faveur quelconque, mais c'est une réponse d'amour, simplement, une invitation à laquelle Priscille répond. Et donc, on voit dans ce passage que la Trinité est engagée. C'est un des rares passages des Écritures où on voit le Père, le Fils, le Saint-Esprit ensemble, donc en quelques versets là. Donc le Père qui dit son affection, le Fils qui est là et qui reçoit, et puis le Saint-Esprit qui descend, qui ouvre le ciel. Nous avons un Dieu de relation. On l'a dit tout à l'heure, Dieu nous aime. Et vous qui êtes nos invités au milieu de nous, rappelons-nous cela. Je le dis pour moi, je le dis pour nous tous, nous sommes faits pour être aimés et pour aimer. Et Dieu nous aime. Et cet amour, il est inconditionnel. Et alors, cette réponse de Dieu, qui est cette réponse de Priscille, cette réponse des baptisés à l'amour de Dieu, ça me rappelle, hein, il y a quelques semaines, 15 jours à peu près, j'étais dans un rassemblement et j'étais interpellé par, je l'ai partagé courtement la semaine dernière, par ce passage de l'Apocalypse dans l'église de Laodicée. C'est une église avec des tas de problèmes, comme toute église d'ailleurs. Hein. Et alors, cette église était un peu tiède, ni froide ni bouillante, et vraiment une parole dure de Dieu. C'est pas évident cette église de Laodicée. Et puis Dieu lui dit, je suis à la porte et je frappe. Celui qui ouvre, j'entrerai dans son cœur et je souperai avec lui. Donc cette parole s'adresse à des chrétiens, à des gens qui connaissent déjà Dieu, à des gens, et Dieu leur dit, mais voilà, je suis à la porte de ton cœur. Comment se fait-il qu'on peut se dire chrétien et avoir Dieu qui est à la porte et qui frappe et à qui on n'ouvre pas? Et j'aimerais dire que ce baptême est l'occasion pour nous tous de dire, Seigneur, on veut vraiment que tu viennes, on ouvre la porte de nos cœurs. Et qu'est-ce que Dieu fait? Il veut souper avec nous. Ça, c'est incroyable quand même. Vous réfléchissez un peu à l'impact de ce Dieu de relation? Il dit, je veux une relation, mais non seulement une relation avec toi, mais je veux m'asseoir avec toi, je veux être à ta table, je veux souper avec toi. Ça, c'est le Dieu que nous aimons, et c'est le Dieu qui nous aime. C'est incroyable. Il a créé le ciel, la terre, et parfois il y a des gens qui le voient comme un Dieu Jupiter qui est là, qui t'attend au tournant pour te frapper dès qu'il y a une bêtise. Ça, c'est pas le Dieu de la Bible. Le Dieu de la Bible, c'est un Père. Un Père qui vient pour ses enfants et qui dit, je frappe à la porte, je veux manger avec toi, je veux partager avec toi, ouvre ton cœur. C'est ça l'amour de Dieu. Alors, les bienfaits de la table, nous Français, on aime bien, et d'ailleurs on va le manifester tout à l'heure, puisque vous êtes tous invités à un apéritif et pourquoi pas une agape ensuite. Donc on va mettre les tables, on va se mettre à table. Et se mettre à table, c'est biblique se mettre à table. Dieu est un Dieu qui aime être à table. Il le dit dans beaucoup de passages, je résiste pas à la tentation de vous en donner, Job 36, « Mais Dieu sauve le malheureux dans sa misère, et c'est par la souffrance qu'il l'avertit, il te retira de la détresse pour te mettre au large, en pleine liberté, et ta table sera chargée de mets succulents. » Le premier miracle qu'a fait Jésus, c'est quand même aux noces de Cana pour une table. C'est incroyable cette histoire de table. Je crois que dans notre culture française, il y a quelque chose de très fort qui parle d'un rêve que nous avons d'être à table ensemble et de partager nos cœurs et l'amitié avec ce Dieu qui nous appelle à être ses amis. Psaume 23, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Cette table, c'est une table de communion. C'est-à-dire chaque fois que tu communies avec quelqu'un, avec Dieu, avec ton ami, avec ton frère, que tu as une table, tu éloignes celui qui veut dévorer. Tu éloignes l'ennemi. La table, la communion, elle éloigne celui qui dévore. Donc voilà l'invitation. Psaume 128, heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains, tu es heureux, tu prospères. Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Tes fils sont comme des plants d'olivier autour de ta table. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. Vous rendez compte? cette histoire de table si importante. Matthieu, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient, de l'Occident, seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. On a un Dieu vraiment de relation. Il veut passer du temps avec toi. Et les disciples, Matthieu 26, firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils préparèrent la Pâque et le soir étant venu, il se mit à table. Le dernier moment avec ses disciples, c'est à table. Je dis ça pourquoi ? Parce que quand Dieu dit « Tu es mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection », ça veut dire « Il le dit à toi aujourd'hui ». Il le dit à nous tous. Et quelque part, ce baptême de Priscille, ça doit résonner dans nos cœurs. C'est cette invitation à Dieu de dire, ben voilà, je t'invite à ma table. Viens, viens, je veux, ouvre la porte de ton cœur, je veux souper avec toi. Et Luc 7, 36, un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Et Jésus entra dans la maison du pharisien contre la loi. Il va avec la grâce, il va dans la maison de celui qu'on ne devait même pas fréquenter et il se met à table. Le Dieu que nous aimons se met à table avec les pécheurs, avec les pestiférés, avec les pharisiens, avec les hypocrites, avec les adultères. Il se met à table, il n'est pas venu pour juger, il est venu pour sauver. Et il sauve en manifestant son amour. Donc le baptême c'est ce signe, bien sûr, d'une alliance. Et la Bible, elle le met en rapport avec la circoncision au temps des Juifs. La circoncision qui était une marque de l'alliance, j'appartiens à Dieu. Eh bien le baptême, dans Colossiens 2, il est dit, voilà, c'est en lui que vous avez été circoncis, d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair, ayant été enseveli avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscité en lui, par lui, par la foi et en la puissance de Dieu qu'il a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses, par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en faisant grâce pour toutes nos offenses, en nous faisant grâce. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités, les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Donc voyez cette circoncision qui parle de cette notion du baptême, ça nous parle d'un Dieu d'alliance. C'est pour ça que Dieu dit, tu es mon fils. Et l'alliance avec Dieu, c'est fait de nous des fils et des filles. C'est une famille, c'est une famille. Nous sommes dans une époque où il y a tellement besoin de famille. Et Dieu nous rappelle qu'il est le Dieu de la famille et de l'affection. Ça me rappelle un peu, on est église Josué ici. Et bien, avant cette conquête, il y a eu Gilgal, cette circoncision de tout le peuple. Pourtant, Dieu avait une promesse magnifique, un héritage magnifique, et ça a commencé par un temps de circoncision, c'est-à-dire de rappel que nous sommes un peuple de l'Alliance. Dans l'Alliance, il y a lien. Je suis lié à lui, il est lié à moi. C'est des cordages qui ne sont pas des cordages qui nous empêchent de vivre, c'est des liens d'amour qui nous gardent en vie et qui nous communiquent la vie. Donc l'Alliance, c'est la position de fils et de fille. Cette histoire de table dont j'ai parlé, ça me rappelle une histoire qui est la nôtre à tous en fait. C'est l'histoire d'un jeune homme dont le père avait fait que des bêtises, c'est Saül. Et le roi David qui a été mis sur le trône, et bien Saül a voulu tout empêcher, c'était l'ennemi de loin de Dieu. Et donc la famille de Saül a été décimée, mais à cause d'une alliance que David avait faite avec son ami Jonathan de la maison de Saül. Il y avait un descendant, à l'époque, un bébé qui a été perclus des pieds, un peu handicapé, il s'appelait Méphibosheth. Et ce Méphibosheth, il avait peur d'y passer comme tous les autres. Il dit, mais moi je ne mérite pas, mon père a fait des tas de bêtises, il a voulu tuer David, loin de Dieu, je suis un misérable. D'ailleurs lui-même, il s'est défini comme un chien mort. Vous rendez compte, Méphibosheth, ce jeune homme qui a vécu dans le rejet, dans aucune espérance pour lui. Je ne mérite rien. Dieu m'a rejeté à cause de ce que j'ai fait, ce que je n'ai pas fait. Vous voyez, la condamnation. Et tout d'un coup, 2 Samuel chapitre 9, Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, va auprès de David parce qu'on l'a fait chercher. David a dit, je veux chercher un descendant pour lui faire du bien. Mais lui, il ne savait pas qu'il voulait lui faire du bien. Alors, il a eu peur. Et il est tombé sur sa face, il s'est prosterné, il a dit, David dit, Méphibosheth. Et il répondit, voici ton serviteur. David dit, ne crains pas, je veux te faire du bien à cause de Jonathan, ton père. Et je te rendrai toutes les terres de Saül, ton père. Tu mangeras toujours à ma table. » Incroyable cette histoire. Il se prosterna et dit, « Mais qu'est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi ?» Et le roi appela Tsiba, serviteur de Saül, et lui dit, « Je te donne au fils de ton maître tout ce qui appartenait à Saül et à toute sa maison. Tu cultiveras pour lui ses terres, tes fils et tes serviteurs, et tu feras des récoltes, afin que le fils de ton maître ait du pain à manger. Et Mephibosheth, fils de ton maître, mangera toujours à ma table. » C'est quoi un baptême? C'est répondre à l'invitation de manger à la table du Père. C'est répondre à cette invitation de plus vivre comme un chien, mais de vivre comme un fils de roi et un prince, habiter dans la maison de Dieu. Et ça, c'est notre histoire à tous, Mephibosheth. On a tous été un peu, on est tous un peu encore, même un peu handicapés. On a tous des handicaps quelque part. On cloche des pieds. Qui c'est qui ne peut pas dire qu'il ne cloche pas des pieds? On a tous cela. Mais Dieu est un Dieu de grâce. Et Mephibosheth, il mangea à la table de David comme l'un des fils du roi, parce qu'en fait, il était un fils de Dieu. Se faire baptiser, c'est reconnaître cette voix du Père qui non seulement dit « J'ai mis mon affection en toi, mais tu es mon fils. Tu es mon fils. » Est-ce que vous savez que vous êtes fils et fille de Dieu? Il y en a qui disent « Mais moi, les histoires de la religion, ça ne m'intéresse pas trop. » Et je comprends que ça ne nous intéresse pas. Moi, on m'avait bassiné jusqu'à l'âge de 20 ans. Je n'en ai pas voulu de la religion. Ça ne m'intéressait pas. Si c'est ce que j'avais vu, ce qu'on m'avait dit. Mais si on m'avait dit que Dieu était un ami qui ne condamnait pas et qui voulait marcher avec moi, faire du bien dans ma vie, alors, bien plus tôt, j'aurais ouvert ce cœur. Donc le baptême, c'est répondre à cette voix de Dieu qui dit, je veux faire, à cause de mon fils Jésus, je fais une alliance avec toi. Est-ce que tu veux répondre à cette alliance? Et cette alliance, ça veut dire, j'accepte aussi eh bien, de lâcher mon indépendance. Le baptême, c'est un peu ça aussi. Alors ça, ça coince un peu parfois. On pense que la liberté, c'est être indépendant. Mais la liberté, c'est pas ça. La liberté, c'est être dépendant d'un Dieu d'amour qui nous veut du bien et qui sait mieux que nous ce qui est bien pour nous. Donc ça, c'est extraordinaire, cette dépendance de Dieu. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra, dit Jésus, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la sauvera. La vie ici, c'est le psyché, c'est la manière de penser, la manière de croire sur nous, sur Dieu. Dieu dit, abandonne toutes ces pensées qui sont tordues, aligne-toi à ce que je te dis, et moi je te dis que je t'aime. Est-ce que tu crois cela? Je ne suis pas digne, je ne suis pas obéissant, tout ça. Dieu t'aime. Et cet amour de Dieu, il t'attire à lui. Et quand on vient à lui, on est enseveli dans quoi? Dans son amour aussi. Pas seulement dans un jugement, mais dans son amour. Donc on est fait pour vivre. Et la vie, c'est ben, j'accepte de donner ma vie. Et quand on verra Priscille tout à l'heure, dans les eaux du baptême, quand elle sera complètement enfouie dans les eaux, longtemps, longtemps, un petit côté rebelle comme ça, donc plouf, hein, on va la laisser dans l'eau. Mais ça, c'est un symbole de la mort, mais quand elle sort de l'eau, mes amis, c'est la fête, c'est la fête, c'est la vie, c'est la vie. Nous sommes faits pour la vie, tu es fait pour la vie, tu es fait pour la fête, tu es fait pour manger à table avec le roi. Ça c'est extraordinaire, mourir pour vivre, mourir parfois nous-mêmes pour vivre. Et on voit un épisode étonnant dans ce, je ne sais pas, on l'a lu, Jésus, il est dit que le ciel s'est ouvert sur lui. Le ciel, alors ça mes amis, c'est extraordinaire. Je le répète, il y en a qui ont déjà entendu là-dessus, mais c'est tellement important, ce ciel ouvert. La volonté de Dieu avec les hommes, c'est d'ouvrir le ciel sur l'humanité de façon à ce que tout ce qui est dans le ciel descende sur la terre. Et qu'est-ce qu'il y a dans le ciel? Il y a la paix, il y a la joie, il y a l'amour, il y a l'espérance, il y a la foi. Il y a le pardon, il y a une atmosphère du ciel extraordinaire. Et la volonté de Dieu, c'est de la faire descendre sur la terre. Mais le problème, c'est que les hommes n'en ont pas voulu. Et ils n'ont pas voulu de ce Dieu qui veut donner tout ce qu'il a. Alors du coup, voilà. Et Dieu dit, mais je veux donner mon ciel, mais il faut l'obéissance. Il faut l'obéissance pour que je puisse bénir, ouvrir le ciel. Et alors, les hommes, Adam, il a commencé, il a essayé d'obéir et il s'est planté. Et l'histoire de l'Ancien Testament, c'est l'histoire d'hommes et de femmes qui veulent avancer avec Dieu et ils y arrivent de temps en temps. De temps en temps, il y a une intervention de Dieu. Mais le problème, sur aucun homme, le ciel est resté ouvert. Sur aucun. Parfois, les grands prophètes, il y a eu une déchirure du ciel, on voit les anges, on voit une délivrance de Dieu, mais ça ne reste pas. Il a fallu qu'un homme vienne et obéisse parfaitement à toute la loi. Il n'y en a qu'un qui a réussi. Ce n'est pas moi, ce n'est pas vous, c'est Jésus. Le christianisme n'est pas basé sur notre obéissance. Il est basé sur l'obéissance d'un seul, c'est Jésus. La religion, elle te dit, il faut faire ceci, il faut faire cela, etc. Et on en rajoute. Il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela. Le christianisme, c'est Dieu qui a fait pour toi. Jésus, il a fait pour toi. La Bible dit, par l'obéissance d'un seul, vous êtes rendu juste. C'est ça la bonne nouvelle de l'Évangile. Parfois, on peut mal le comprendre. On peut dire, oh là là, ce n'est pas pour moi. Il y a trop de choses, trop dur, trop de lois, oh là là. Si je marche avec Dieu, il ne faut pas que je fasse ça, il ne faut pas que je fasse ça, il ne faut pas que je fasse ça. Excusez-moi, mais ça, ce n'est pas l'Évangile. C'est un faux Évangile. Et si c'est ça dans la tête de certains, abandonne immédiatement ça. Le vrai Évangile, Jésus est venu, il a obéi parfaitement. Et sur sa vie à lui, le ciel s'est ouvert et il est resté ouvert. Et il est resté ouvert sur tous ceux qui mettent leur foi en lui. Donc le ciel sur Priscille est ouvert. Vous vous rendez compte? Non pas à cause d'elle, mais à cause de sa foi qu'elle met en Jésus. Le ciel est ouvert sur les enfants de Dieu. Et c'est, on va pas lire, mais dans Deutéronome 28, il y avait tout ce chapitre qui dit si tu obéis, le ciel s'ouvrira, etc. Et nous, on lit ça, on dit, là là, mais Seigneur, mais j'y arriverai jamais. Il y a trop de si. Et alors, du coup, quand on n'est pas béni, on se dit, c'est normal, Dieu m'aime pas, j'ai pas fait suffisamment de trucs, et on se condamne, et on arrive comme Méphibosheth, je suis qu'un chien mort, c'est pas pour moi. Mais Dieu dit, mais arrête, moi je l'ai fait pour toi. Alors aie confiance, le baptême, c'est mourir à toutes ces idées tordues, qu'on est condamné, accusé, pas digne, on doit mourir à cela. Et quand on se relève, waouh, on entend quoi? Tu es ma fille, bien-aimée. J'ai mis toute mon affection en toi. Et si tu crois en Jésus, la parole de Dieu sur Jésus, elle est pour toi. Elle est pour nous. Le christianisme, c'est entendre la voix du Père qui dit, j'ai de l'affection pour toi. Et le mot affection, ce n'est pas le mot amour agapé, un amour énorme, incommensurable, inconditionnel. C'est bien sûr ça, mais c'est plus subtil que ça. Le mot utilisé ici, c'est le mot d'un papa qui prend son enfant sur ses genoux. C'est la tendresse d'un père. On est dans un monde qui a besoin d'affection. Pas tellement de discours, mais d'affection. Prendre dans les bras, aimer, parler quelque chose d'affectueux. C'est quand la dernière fois que tu as été affectueux avec quelqu'un? Et Dieu, l'affection de Dieu, elle est même pour ses ennemis. Ça, et Dieu nous demande, aime tes ennemis. C'est-à-dire, sois affectueux même pour eux. Quand on reçoit l'affection de Dieu, et le baptême, c'est recevoir toute cette affection, alors tout est possible. On rentre dans notre ministère. Le ministère de Jésus, il avait 30 ans. Hein. Il a attendu 30 ans. Il y avait le monde à sauver. Qu'est-ce qu'il a foutu? Charpentier, des meubles? Bon, on peut dire, mais attendez, il faut te bouger là. 30 ans, le monde est à sauver. Qu'est-ce que tu fous? Des meubles? Mais attends. L'appel de Dieu, qu'est-ce qu'on fait? Et Jésus a attendu. Et le moment du début du ministère, c'est quand cette voix, tu es mon fils bien-aimé. L'amour inconditionnel de Dieu est la seule base pour tout ministère. Et pour Priscille, comme pour nous tous, on se rappelle que le service pour Dieu, c'est la base, c'est l'affection qu'il a pour nous. Toute autre base est à rejeter. Donc nous avons ces quelques pépites par rapport à ce texte qu'on vient de lire sur le baptême. Et dernière chose, je crois que c'est important aujourd'hui, c'est le témoignage public de Priscille. On sait que Priscille, elle aime le Seigneur. On la connaît. D'ailleurs, j'aimerais saluer l'église de Colmar aussi, dans laquelle elle a pu grandir, dans laquelle elle a été nourrie. Et puis voilà, et maintenant ici. Et je veux dire, mais c'est le corps de Christ qui a fait que les parents aussi, l'investissement de la famille, tout ça ensemble, toutes ces semences on produit cela. Et donc ça c'est magnifique. J'aimerais dire, Priscille, elle était mon élève en terminale, en philo, on était plusieurs à la voir, et j'aimerais dire, on est fiers de toi Priscille. Franchement, on est fiers de toi. Et aujourd'hui, on est tellement dans la fête avec toi pour ce jour-là. Jésus a dit, je vous dis que quiconque me confessera devant les hommes, le Fils de l'homme le confessera aussi devant les anges de Dieu. Mais celui qui me reniera devant les hommes sera renié devant les anges de Dieu. Et je sais que ton témoignage, il est clair et on va l'entendre maintenant. Je t'invite à venir me rejoindre et bien voilà, on veut l'applaudir, l'encourager.
J'aimerais juste avant souligner que Valigny a fait un dessin, elle représentait le ciel ouvert. Ouais. Et aussi hier soir, j'ai beaucoup pleuré avec le Seigneur parce qu'il me disait qu'il était fier de moi et du coup, ça rejoint aussi. Merci. J'aimerais vous partager mon témoignage de conversion personnelle. Je viens d'une famille chrétienne et je connaissais beaucoup de choses intellectuellement sur Dieu. Je pouvais croire que Dieu était quelqu'un qui existait. Lorsque je le voyais en fait agir dans l'église, je me souviens quand les gens se mettaient à l'avant de l'église, se mettaient à genoux et pleuraient. Et pour moi, même si d'une vue humaine, on voyait rien, pourquoi est-ce qu'ils pleuraient sans raison ? Je savais avec la vue spirituelle qu'il y avait un être tangible qui était en train de les toucher, toucher leur cœur, toucher leur être. Et c'est cet amour qui était en train de les révéler, de se révéler à eux, et c'est ça qui les faisait pleurer. Et vraiment que des gens, des adultes pour moi, pleurent devant d'autres adultes sans raison particulière, ben c'était vraiment que il y avait quelque chose qui était en train de se passer. Et c'était tellement incompréhensible, tellement au-delà de ce que je pouvais vivre avec Dieu, que je me disais ben il faut être quelqu'un de plus mûr, de plus âgé pour pouvoir le vivre. Et donc c'était pour cette partie-là, mais aussi pour la guérison miraculeuse. Je sais que si, par exemple, d'après ce que je savais sur Dieu, si on était malade, ben, on priait et Dieu nous guérissait instantanément. Et c'est ce que j'expérimentais dans ma vie. Si j'étais malade avec une foi simple, eh bien, je voyais la guérison se produire. Et pour au moins ces deux raisons, pour la manifestation tangible de Dieu dans l'Église et puis pour la guérison miraculeuse, je pouvais dire croire en Dieu, croire... en ce que ma famille, l'Église, mon éducation m'a appris, et dire aimer Dieu, dire croire en lui. Et ensuite, ben, j'étais en seconde, et je venais d'avoir 15 ans, et à ce moment-là, j'ai eu un problème d'apparence extérieure de moi-même qui ne me convenait pas. Et du coup, le seul moyen que j'avais trouvé pour répondre à ce besoin, ben, c'était de voler dans les magasins, et c'est ce que j'ai fait. Et je me souviens sur le chemin, alors que je priais à Dieu, et ben une autre chose que je savais sur Dieu, c'est qu'il pardonnait quand on fait quelque chose de mal. Et du coup, j'ai prié à Dieu qu'il me pardonne pour le mal que j'allais faire. Et c'est alors que je me suis souvenue, ben à l'école du dimanche, d'une leçon qu'on avait reçue de la femme du pasteur qui nous avait expliqué que si on fait le mal, Dieu pardonne, mais qu'on va pas exprès taper notre frère. Et en se disant, ben, ce soir, je vais demander pardon à Dieu, et il me pardonnera, et l'affaire est réglée, ça ne peut pas marcher comme ça tous les jours. Et moi, malgré que j'avais conscience de ça, de ce qui était faire le mal et faire le bien devant Dieu, ce qui lui plaisait ou pas, ben, je l'ai quand même fait. Et je me souviens, c'était 2 semaines après la rentrée. Sur le chemin, ben, il y avait une voix intérieure qui était forte en moi, et qui me travaillait et qui parlait dans mes pensées, et qui c'était la première fois que j'entendais Dieu me parler de cette façon-là, et c'était bizarre. Et ça disait, et si cette fois-ci tu dois pas y aller, si au moins cette fois-ci n'y va pas, parce que si cette fois-ci tu te fais prendre. Mais même si j'avais entendu ça à l'intérieur de moi et que sur tout le trajet j'entendais ça, ben en fait, ce que j'allais pouvoir recevoir dans ce que j'allais faire allait m'apporter bien plus que finalement d'être droite devant Dieu. Et donc c'est ce que j'ai fait. Et à ce moment-là, ben, cette voix avait bien raison parce que je me suis fait prendre par le gardien du magasin et j'étais assez choquée parce que pour moi, ben, c'était facile de voler dans les magasins. En plus que j'étais discrète et pour moi, j'aurais pu continuer comme ça toute l'année sans problème. Donc c'était vraiment que Dieu avait un autre plan pour ma vie et il voulait m'arrêter à ce moment-là. Et du coup, ben voilà, les gardiens m'ont mis dans une petite pièce à part dans le magasin et ils ont appelé la police. Deux policiers sont venus me garder dans cette pièce. Et à ce moment-là, ben, je prie à Dieu parce qu'en général, c'est dans les situations difficiles que tout d'un coup, on se met à vouloir que Dieu réponde. Et je demandais qu'il me sorte de là parce que je ne savais pas trop ce qui allait m'arriver. Et puis, ben, si on allait me conduire dans le poste de police ou j'en sais rien, je l'aurais compris de la part de Dieu parce qu'au fond, même si je sais qu'il est, il est bon et je lui demandais de m'en sortir, pourquoi pas ? Est-ce qu'il serait bon si, s'il ne l'est pas ? Je l'aurais compris parce que c'était moi qui étais en faute. Et du coup, pendant le, les policiers ont appelé ma mère et pendant le court temps que ma mère elle vienne, ben, je me suis mise à imaginer en fait une histoire qui raconterait à ma mère ben, le fait que j'avais pas volé. Et du coup, ma mère est venue et à ce moment-là, étonnamment, ben, les policiers ils lui ont absolument rien dit, ce qui fait qu'ils nous ont laissé partir. Et à ce moment-là, ben, ma mère elle y a cru à l'histoire que j'avais racontée, que je lui avais racontée. Et le soir même, je raconte à toute ma famille ben, ma version des faits et là encore, ils y croient. Et du coup, le soir, en allant au lit avant de me coucher, et ben, j'ai dit au Seigneur, ben, je te demande pardon, je reconnais que j'ai fait le mal et je me repens. Et ensuite, les mots qui me venaient après une telle situation, c'était de dire à Dieu, ben, finalement, Seigneur, je te donne ma vie. Et à ce moment-là, ça m'a fait tout bizarre parce que normalement, si on dit je te donne ma vie, c'est que on est chrétien, on connaît Dieu, on croit en Dieu et c'est ce que j'étais. Et pour moi, j'étais une chrétienne, j'allais à l'église, j'étais dans le groupe de louanges, je priais et je lisais ma Bible. Et pourtant, ben, c'est comme si je disais, bon, ben, enfin, Seigneur, je veux te connaître, enfin, je t'ai connu. Et la leçon que j'ai eue de cette journée, c'est que c'était vivant, que t'étais réel et je le savais pas avant parce que j'étais dans la religion et je te voyais pas au fond. Et du coup, je me suis rendu compte qu'au fond, dans cette journée, j'avais su par mon éducation à l'école du dimanche ce qui était faire le bien, faire le mal, et consciemment j'ai fait le mal. Ensuite il y a eu cette voix qui m'a interpellée pour me dire j'ai d'autres plans pour toi, je veux pas que tu fasses le mal, essaye par toi-même de t'arrêter, sinon je devrais t'arrêter et je devrais te sanctionner, je te préviens. Et j'ai pas voulu écouter et du coup il m'a arrêté le Seigneur. Et à ce moment-là, alors que je méritais d'être arrêtée, ben, le Seigneur, je lui demande encore, ben, aide-moi à m'en sortir de là puisque soi-disant tu es bon. Et au lieu de compter sur lui, sur la prière que j'avais faite, je comptais sur moi-même, en plus d'une mauvaise manière par le péché puisque je mentais. Et le soir même, ben, toute ma famille me voyait tout aussi gentille et sage qu'ils ont toujours connu. Et ce mal-là, c'est que le Seigneur qui l'a su, il l'a gardé pour lui et il l'a pas divulgué ailleurs. Et devant ce pardon, ben, c'est ce que j'ai dit, Seigneur, je t'offre ma vie. Et c'est à ce moment-là que je lui ai donné ma vie. Et je me souviens encore, une fois sortie du magasin, le Seigneur vraiment a mis mes yeux devant une croix qui était en haut d'une cathédrale. Enfin, ça m'a vraiment retenue parce que je me suis rendu compte que je savais beaucoup de choses sur cette croix. Historiquement, ce qui était arrivé à Jésus sur cette croix, et que pourtant, j'avais aucune conscience que ça pouvait nous servir pour nos situations à nous aujourd'hui, qu'il l'avait fait pour nous. Et ben, c'est dans Ésaïe 53 où il est dit Jésus, il était brisé à cause de nos fautes et blessé à cause de nos péchés. Et donc c'est vraiment ce que j'ai réalisé. J'avais aucune conscience de cette puissance de la croix. Et par la suite, j'ai appris que ma mère, elle avait prié pour le salut de chacun de ses enfants. Et je me suis dit que c'est encore une prière qui avait été répondue, comme la mienne où j'avais demandé à Dieu de me pardonner. Et qu'il y a vraiment une puissance dans la prière. Et dans la Bible, il y a aussi écrit que Jésus, il nous dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Et il dit, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume que Dieu nous a préparé d'avance. Et puis, dans un autre endroit aussi, il dit, si c'est en 2 Corinthiens, si quelqu'un est en Christ, ben, il est une nouvelle créature. Toutes les choses qui sont anciennes sont passées et toutes choses deviennent nouvelles. Et cette nouvelle naissance, c'est vraiment ce que j'ai expérimenté par la suite parce que j'ai arrêté des mauvaises habitudes, certains péchés. Et c'était facile pour moi devant le pardon et l'amour de Dieu. Et j'avais aussi depuis enfant des problèmes pour dormir parce que j'étais angoissée, je ne trouvais pas de sens à la vie. Et ça aussi, le Seigneur a éliminé ça dès ce moment-là. Et j'ai plus ce problème. Et j'ai passé aussi une année dans la présence de Dieu, dans la louange, des heures et des heures à apprendre à mieux le connaître. Et le Saint-Esprit aussi me donnait des révélations de son royaume et par la Bible et comme ça, en me faisant écrire aussi des choses que ben, j'avais jamais compris ou apprise à l'église. Donc voilà, et c'est comme ça que s'est terminée toute cette année de seconde. Et par la suite, j'ai eu du coup l'opportunité d'aller à l'école Daniel, où j'ai passé mes 2 dernières années avant le bac. À 18 ans, j'ai eu le parler en langue et le baptême du Saint-Esprit. Et ensuite, je suis retournée à l'école Daniel pour y travailler en maternelle. Et c'est comme ça aussi que j'ai pu venir dans cette église avec ma famille où je décide de me faire baptiser. Et maintenant, ça fait 5 ans que je connais le Seigneur. Il a été là dans les plus difficiles moments de ma vie. Et ce que j'ai le plus aimé de lui, c'est vraiment son amour. Je veux le servir lui avant les hommes, chercher sa volonté. Il est vraiment le premier dans ma vie, mon premier amour. Et je sais que Si je meurs maintenant, je suis définitivement sauvée parce que c'était vraiment la question que je m'étais posée. Est-ce que avant cette expérience-là, j'étais sauvée parce que j'ai été retenue par un verset qui est dans Matthieu. C'est Matthieu 7. Ils disent « Ceux qui me diront « Seigneur, Seigneur ». ». Et pour moi, déjà là, les gens qui disent « Seigneur, Seigneur », c'est des personnes qui disent croire en Dieu ou au moins prennent ce pas de se mettre dans la prière pour parler au Seigneur et pour lui adresser la parole, pour l'appeler par son nom. Et le Seigneur dit, parmi ceux qui m'appelleront par mon nom, tous n'entreront pas dans le royaume des cieux. Et c'est comme si moi aussi, avant, je savais prier au Seigneur, lui demander pardon pour le mal que j'ai fait ou lui demander de m'en sortir. Mais pourtant, c'est comme s'il disait, au fond, Priscille, je ne te connaissais pas. Et il va même plus loin quand il dit, beaucoup me diront, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom, n'avons-nous pas guéri des malades et n'avons-nous pas chassé des démons? Et le Seigneur leur dit, je vous déclarerai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Et c'est comme si le Seigneur disait, tu m'as vu agir dans l'église, tu m'as vu toucher des gens, toucher des cœurs, guérir des malades et te guérir toi-même. Tu as utilisé ma puissance pour te guérir toi-même et tu as vu la guérison, tu as utilisé mon nom, mais pourtant j'avais jamais accès à ton cœur. Et je ne te connaissais pas et je ne connaissais rien de toi parce que tu vivais ta vie par toi-même. Et donc, ce que j'ai fait ensuite, c'est que j'ai surligné plein de versets dans ma Bible où il est parlé de connaître le Seigneur. Et j'en ai trouvé des tas où à un moment, le Seigneur, il dit « Mon peuple, il est fou » dans Jérémie, « Il ne me connaît pas » ou il dit même « Les maîtres de la loi ne m'ont pas connu ». Et à un autre moment, il est dit dans Jean 17, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Ou alors dans Jean 4, vous adorez ce que vous ne connaissez pas, et nous adorons ce que nous connaissons. Donc j'ai vraiment été marquée par des gens qui peuvent dire croire en Dieu, et qui pourtant, Dieu n'a jamais transformé leur vie, ils ne connaissent pas la puissance de la croix pour leur vie personnellement, ils ne connaissent pas l'amour de Dieu pour eux, et en fait, ils passent à côté de Dieu, ils passent juste à côté de qui il est, parce que la religion, l'homme peut parler de Dieu, l'homme peut essayer d'approcher une personne vers Dieu, mais tant qu'il n'y a pas cette rencontre, on peut dire croire en Dieu, mais au fond, il manque Dieu de le connaître et au fond on a tout à découvrir en fait. Donc voilà, c'est vraiment ce salut que j'aimerais sceller avec vous aujourd'hui par les eaux du baptême. Amen.
Merci Priscille. Voilà. Donc c'était clair comme message, comme témoignage. Je pense qu'il n'y a pas plus clair. En tout cas, merci d'avoir mis l'accent sur la croix aussi. C'est le seul moyen d'être réconcilié avec Dieu, ce sacrifice de Jésus pour chacun de nous. On va passer au moment important. Si on peut amener Alors, on a tout sur roulette ici. C'est une église sur roulette, c'est extraordinaire. Ça va comme sur des roulettes. On a le baptistère sur roulette, on a les offrandes sur roulette, on a tout.